Voilà, comme ça. Oui, ça va, ça va bien. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
No, wounded,
sir. Che fa, aggredisci?
Ma stato fatto, che fa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bonjour à toutes et tous, ciné-prolo, ciné-bourge, bref, cinéphiles du vendredi. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on ne sait pas encore. Le programme va s'écrire au fil de l'émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est avec Alexis. Salut Alexis.
Salut, et je crois qu'on parle de cinéma.
Eh bien oui, merci, très bien. Bon, ben voilà, ça, une autre chose certaine. On va parler cinéma aussi avec Cathy. Salut Cathy.
Et salut Sophie, salut tout le monde.
Et avec Olivier, bonjour Olivier.
Bonjour, on parle de cinéma visible sur les écrans ardéchois, c'est ça ?
Ah oui, merci. Voilà. Merci beaucoup, heureusement que vous êtes là. Et merci Sylvain, heureusement que tu es là, sinon cette émission ne se ferait jamais.
Bonjour. Bonjour.
On va peut-être aussi parler de quelques films. Alors là, on en est sûr, c'est Classe Moyenne, Connemara, Shaun. Et puis, tu nous parleras du prix du jury Bouche de l'art, du film. Voilà. Et puis, Le Vivant qui se défend, peut-être. Entre deux, ben, on verra bien. C'est parti, tout de suite.
Ah, Philippe, installez-vous, faites comme chez vous.
Ah, c'est marrant que vous disiez ça, parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi. Que vous ne payez pas de loyer.
Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au Black,
pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur ? Ça laisse pas de traces. Puis bah, ce serait moins fatigant pour vous.
Que vous nous avez versé 800 euros par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite.
Et non.
Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement.
150 000.
Eh ben voilà, 150 000. La question à 150 000 aussi, c'était qui prend la parole ? Mais ce sera Olivier pour Classe Moyenne de Anthony Cordier. Vous avez reconnu notamment Laurent Lafitte, Elodie Bouchez et...
Laure Calamy.
Merci, Laure Calamy. Oui, mais oui, vous l'avez reconnu.
Et...
Ramzi Bedia, Classe Moyenne. Alors, la semaine dernière, Julien, de la Maison d'Image, nous avait parlé avec émotion de Classe Moyenne, qu'il avait beaucoup aimé. Olivier, qu'en as-tu pensé, toi ? Est-ce que ce film tient toutes ses promesses du début à la fin ? Début qu'on sent un petit peu énergique. Est-ce que ça fonctionne jusqu'au bout ?
Non. C'est-à-dire que moi, je croyais voir un film impitoyable sur toute la ligne, qui tire dans tous les coins, personne ne sort sauf de l'affaire. En fait, il porte bien son titre, Classe Moyenne, c'est un film moyen qui parle moyennement de choses moyennes. Et, alors, ça se voit dès l'écriture du scénario, parce que c'est un scénario original de Jean-Alain Laban et Steven Mitz, qui a été repris par Anthony Cordier et sa co-scénariste Julie Père. Donc ils se mettent quand même à quatre pour écrire ça. Alors,
et il y a de la perte.
Et alors voilà, exactement. C'est-à-dire on sent l'effet réduction au plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire au lieu d'avoir un enrichissement qui vient de partout avec des idées qui nourrissent finalement l'intrigue, etc. Non, on a la réduction au plus petit dénominateur commun. En plus donc c'est tourné en 25 jours quand même. Donc dans un lieu qui a été choisi à cause de son absence d'angle. C'est une espèce de grande villa avec beaucoup de courbes. Donc il n'y a pas d'angle. Donc on n'est jamais dans... C'est ce qu'il voulait, ne pas être dans un huis clos enfermant dans une case. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors du coup, effectivement, on n'a pas de case. La caméra circule, mais elle accroche rien. Du coup, d'une certaine manière, c'est le problème. La classe moyenne est la seule absente du film. Il n'y a pas de classe moyenne dans le film. Et les pauvres et les riches, Donc Laure Calamy et Ramzi Bedia sont les pauvres, et puis Philippe, enfin donc Laurent Lafitte et Élodie Bouchez sont les riches. On comprend pas bien, parce que les pauvres en question, ici, ils sont pas payés par les riches, c'est pour qu'ils puissent toucher le RSA. Alors moi, ils ont l'air malins, donc je suppose qu'ils touchent, lui, le RSA pour homme seul, et elle, le RSA pour parents isolés. Donc j'ai fait les comptes, c'est 607,75 € plus 911,63 €, ça fait 1519,30 €. À quoi s'ajoute un peu plus de 800 € donnés par Laurent Lafitte pour qu'il s'occupe pendant 3 mois par an de la maison, ce qui nous fait un total de 2319,38 €. Je suis précis dans les chiffres, parce que dans le film, ils le sont aussi avec le montant du SMIC. Hein. Donc, on est largement au-dessus du SMIC.
À peu près 1 000 € au-dessus du SMIC. Mais pour deux.
Voilà.
Mais pour deux.
Mais pour trois, si on veut. C'est-à-dire que, en tout état de cause, on est à peu près au revenu médian français. C'est-à-dire que la classe moyenne, c'est eux. Et on ne comprend pas pourquoi cette pince de Ramzi Bedia offre à sa fille pour ses 20 ans un téléphone reconditionné, hein, et non pas reformaté. Donc, les pauvres ne sont pas pauvres, et donc du coup, ils jouent à l'intérieur même du film un rôle qui n'est pas le leur, et les riches ne sont pas... Enfin, ce ne sont pas les riches. Ouais, je veux dire, quand vous êtes supposé à ce niveau de richesse, et que vous êtes en plus patron d'un cabinet d'avocats d'affaires, vous employez pas pendant 8 ans des gens au black pour qu'ils puissent toucher le RSA. Je veux dire, vous êtes pas quand même... Alors, je veux dire que pour les riches aujourd'hui, il y a suffisamment de moyens légaux d'exploiter les pauvres sans avoir recours à des dispositifs qui les mettraient en danger, eux les riches.
C'est vrai, donc, on a quelques noms.
On a quelques noms. Donc... tout ça n'est pas très crédible et contribue à faire de ce film un objet artificiellement fabriqué. Et puis, effectivement, derrière, on se dit, moi, mon modèle de comédie, ça reste Molière. Voilà. Donc. Et donc, c'est quelqu'un qui arrivait à se moquer des riches devant les pauvres et à se moquer des pauvres devant les riches. Donc, il se mettait tout le monde dans la poche. Mais enfin, il y avait quand même une vraie critique, vraiment, du pouvoir de Louis XIV et puis des traînes savates de la capitale. Donc, là, au contraire, le discours social qui aurait pu être tenu à un moment donné et le discours libéral qui aurait aussi pu être tenu et qui est tenu par moment, en fait, s'annule. Et il ne s'annule pas dans une sorte, donc, justement, de cynisme impitoyable, genre parasite, vous savez, de Bong Joon-ho. C'est une espèce de sous-parasite, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que, sauf qu'on n'a pas non plus un discours cynique, impitoyable, si vous voulez, comme dans Parasite. On a, au contraire, un petit discours politiquement correct où quand même les pauvres sont un peu plus gentils que les riches, mais pas beaucoup. Et on comprend pas pourquoi, si ce n'est que Anthony Cordier se présente partout où on veut l'entendre comme quelqu'un qui serait passé des pauvres aux riches, alors que, on le sait bien, l'ascenseur social est une fable qui n'a jamais existé, pas plus aujourd'hui qu'à l'époque de Rastignac, auquel Mehdi est comparé par Philippe dans le film.
Cathy, est-ce que tu es d'accord avec... Est-ce que... Voilà. T'as aussi cette version... T'as eu ce regard-là sur le film ?
Ouais, je vais pas trop... Enfin, je vais pas en parler très très longtemps. Effectivement, j'ai été assez déçue. En fait, par rapport, j'avais pas d'attente par rapport au film, mais je l'ai visionné dans un certain contexte pour les rencontres à RSC de Cannes notamment. Et c'est vrai que par rapport à ce qui pouvait être écrit sur le papier, le casting plutôt plus quand même, hein, de ces couples qui sont sur lesquels on n'a pas grand chose à dire, hein, ils sont plutôt efficaces. Je trouve que le film, il tient malheureusement pas la route sur la durée, et on finit par s'ennuyer un peu, et je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin, en fait, dans le côté...
Parasite,
confrontation, riche-pauvre, que ça parte un peu dans tous les sens. Le seul truc un peu trash, voilà, un peu un jeu de massacre, ça aurait pu être amusant à la limite, en tout cas, mieux respecter le cahier des charges qu'il l'a respecté là.
Alexis, toi qui l'as vu aussi.
Je suis plutôt d'accord. Et puis, cet ajout de couches au fur et à mesure des... pendant des scènes et des actions qui se passent, peut-être on y croit plus ou moins. Et puis, comme on dit, les classes sont pas assez extrêmes pour pouvoir y croire.
Mais ça s'appelle classe moyenne en même temps.
Oui, non, mais
c'est pas une classe moyenne.
Mais est-ce que c'est pas des classes moyennes plus pauvres et des classes moyennes un peu plus riches?
Déjà, ils payent pas leur loyer. À partir de ce moment-là, rien que ça, on peut se poser la question. Comme tu disais, le téléphone reconditionné, on peut se poser la question également. Moi, j'ai eu du mal à y croire, à y rentrer, même s'il y a quelques côtés positifs. Moi, je pense à la BO directement, qui est plutôt péchu et qui va entraîner ce côté satire qui marche bien avec le film. Il y a quelques points positifs, même la patine de l'image est quand même plutôt assez sympa. Mais bon, la nerf de la guerre, c'est quand même le scénario et c'est mollasson. Voilà.
C'est mollasson, classe moyenne qui porte bien son nom, à voir au navire et bientôt au Vence, par chez toi. Voyons si un autre film français...
J'aurais voulu dire quand même une chose en faveur du film, c'est qu'il est extrêmement distrayant, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une distraction et quand on voit Laurent Lafitte dans ce rôle et qu'on pense qu'il a joué le rôle principal du quatrième mur, par exemple, on se dit mais quel patron, quoi, en termes de jeu, quoi.
Quel panel,
Oui, ça, c'est clair. Il est vraiment au-dessus. Et il est capable de jouer des personnages très, très différents. C'est intéressant de ce côté-là.
Allez le voir, au moins pour l'interprétation et puis pour le divertissement.
Ouais.
Donc, autre film français, encore celui-là, Connemara, d'Alex Lutz.
Prêt, feu, partez.
C'est parti.
Ça va?
Ah oui, pourquoi?
Avec Philippe?
Ah non, ça va pas, non, avec Philippe.
Puis de toute façon, le principal, c'est ton boulot.
Je crois pas, non.
Mais tout va bien, ce côté-là.
Ah non, ça va pas non plus de ce côté-là, tu vois.
Fermez les yeux. Relaxez-vous. Concentrez-vous. Que voyez-vous, là, maintenant?
Épinal, est-ce que vous êtes là?
Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et on porte ce resto franchisé. Christophe Marshall.
Christophe,
non, Olivier, on disait. Olivier, c'est à toi aussi qui va prendre la parole. Connemara. Mais Christophe, c'est qui? C'est Mélanie Thierry, non, qu'on a entendu parler,
oui,
là.
Et elle appelait Christophe, qui est Benoît Bouillon.
Qui est Bastien, Bastien Bouillon. Bastien. On y s'appelait. Mais que fait Alexis Gamblin? Non, Jacques Gamblin, tu veux dire, dans Connemara. Alex Lutz, en tout cas. Alex Lutz, mais qui ne joue pas, qui est le réalisateur. Et qui adapte Nicolas Mathieu, qui a été adapté, vous le savez, l'année dernière, avec Leurs enfants après eux. Alors, j'ai quand même un petit peu de mal à te laisser la parole avant, parce que je suis bien consciente que quand tu avais parlé de Leurs enfants après eux, qui se passait, qui avait l'outrecuidance, se passait en Lorraine, ça ne s'était pas justement très bien passé.
Non.
Alors là, on est dans les Vosges, on n'est pas loin de la Lorraine, j'ai un peu de mal, mais on y va quand même.
On est surtout à Nancy, donc ça ne me concerne absolument pas, puisque je le rappelle, je suis natif de Metz. Donc, Connemara, oui, un film d'Alex Lutz, qui est aussi convaincant comme réalisateur que comme acteur, hein, pour le coup, parce que je l'avais revu dans Fils de, où il incarnait un ministre de l'Intérieur glaçant d'impertinence et de cynisme. Et là, donc, il est derrière la caméra, on le voit plus, mais on voit son travail. Donc, effectivement, Alex Lutz, semble-t-il, avait déjà eu envie d'adapter Leurs enfants après eux, et puis les droits avaient déjà été pris par ceux qui ont réalisé le film. Donc il s'est jeté sur Connemara. Connemara de Nicolas Mathieu n'a pas eu le prix Goncourt, hein, c'est son précédent, Leurs enfants après eux, qu'il a obtenu. Que le roman de Nicolas Mathieu est un roman de on a l'impression de cours d'écriture d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est un roman et lui aussi extrêmement fabriqué, mais relativement efficacement, vu le grand nombre de personnages et vu que je vais en dire deux mots. L'action se passe quand même à deux moments, c'est-à-dire l'adolescence des personnages principaux et leur
que leur quarantaine. Donc, vu cette structure là, c'est difficile, pas très évident à gérer. En effet, c'est Hélène qui a bien réussi et s'est extraite des Vosges Épinal pour réussir à Paris, tandis que Christophe, lui, est resté à Épinal où il a été très brièvement une sorte de star du local hockey. Du hockey. Voilà. Hockey. Bon. Alors. Quelques années plus tard, Hélène fait un burn-out et décide de revenir à Nancy, où évidemment les tensions professionnelles en particulier sont beaucoup moins élevées, et elle retombe sur Christophe, qu'elle avait repéré à l'époque, mais entre deux, rien ne s'était passé, Christophe étant occupé ailleurs, en particulier avec l'ami d'alors d'Hélène, prénommée Charlotte. Alors, quand on compare le livre et le film, et c'est ce que nous nous proposons de faire avec Cathy dans une prochaine émission...
prochaine émission, mais sur une radio... probablement complémentaire et ami, mais enfin
voilà.
Film, c'est pas mal aussi sur
Fréquence 7. Oui, bien sûr, mais on reviendra, vous inquiétez pas, nous sommes têtus. Et donc, quand on compare les deux, on... ce qu'avec Cathy on évite de faire parce que c'est pas le but du jeu, mais là tout de même le film est vraiment une réussite dans la forme. Il est vraiment original dans la forme. Je sais pas si vous vous souvenez du dernier Clapiche, là, l'avenue de l'avenir. On a un peu quelque chose avec un rapport avec le temps aussi, etc. Et je trouve qu'Alex Lutz utilise presque une technique impressionniste dans sa façon de filmer, comme Clapiche nous montre les impressionnistes qui peignent Impression Soleil Levant à Paris dans les années dans la Belle Époque. Donc effectivement le film, je le trouve très réussi et très très émouvant pour cette raison-là, c'est-à-dire que les problématiques psychologiques des ados et les problématiques psychologiques des adultes de 40 ans qui se demandent à 40 ans s'ils ont bien pris le bon chemin, s'il reste encore un peu de route à parcourir pour éventuellement changer de chemin ou pas, etc., qui sont des problèmes lourds, hein, qui sont quand même... Voilà, bon...
Parle pas, j'angoisse.
Bon, voilà, c'est ça. Et moi, maintenant, j'angoisse pour d'autres raisons, puisque j'ai 20 ans de plus. Mais disons que, effectivement, je trouve que c'est très, très réussi chez Lutz. Et c'est au prix... Alexis parlait à l'instant de Nerf de la guerre, qui est le scénario. Je pense que la réussite du film tient à une réécriture complète du scénario. C'est-à-dire qu'il a pris le bouquin, il l'a... émietté.
Essoré.
Je dirais plutôt qu'il, comme un puzzle, il en a et il a fait un autre puzzle avec les mêmes pièces, en gros, avec un petit problème, c'est que le personnage secondaire de Charlotte, qui est beaucoup plus importante dans le livre que dans le film, je me demande si dans le film, on a le spectateur lambda qui n'a pas lu le livre comprend vraiment bien qui est Charlotte et sa mère. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, c'est un film qui mérite de porter beaucoup d'émotions sur des sujets qui sont importants.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce film, Cathy ?
Je vais je suis d'accord avec Olivier une fois de plus. C'est à noter. Mais Alex Lutz a vraiment réussi, je pense, à prendre le meilleur du roman de Nicolas Mathieu et à nous emporter dans cette histoire de couple, ce retour aux sources, quoi, qui est intéressant aussi, le fait de revenir, d'avoir voulu, pour le personnage principal, hein, pour Hélène, quitter ce lieu où elle se sentait pas à sa place, où elle voulait pas rester au niveau social de ses parents, elle voulait s'élever, elle voulait être quelqu'un d'autre, et puis finalement est-ce une réussite ou un échec que de revenir comme ça dans sa région natale et tomber amoureuse ou retomber amoureuse de son repère d'adolescente auquel elle n'a pas abouti quand elle était adolescente. Ça pose plein de questions et c'est vrai que c'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Ouais. Il y a des allers-retours dans le passé et il y a des scènes très très belles entre eux. Jusqu'à cette scène un peu finale du mariage qui est très importante à la fois dans le livre et dans le film. Et oui, Connemara, c'est un film à découvrir. Et je ferme la parenthèse parce qu'à Tueil, le 5 octobre, on aura un livre, un film en vrai, donc en voyant le film au cinéma La Vesprade avec la médiathèque de Tueil. On a aussi choisi cet ouvrage et cette œuvre.
C'est ce qu'on appelle de la synergie culturelle.
Connemara, qui, en attendant de le voir à Tueil le 5 octobre, est à Ruyons, au Vence et à Aubenas, et la semaine prochaine, il sera à Rosières. On va peut-être faire un petit saut pour aller sur la nature qui se défend, que tu as projeté hier, Alexis, et qui sera projeté à Rosières. Parle-nous un peu de ce documentaire qui fait une tournée là, qui est en tournée depuis quelques mois dans toute la France, des tournées j'ai appris autogérées, enfin avec des voilà, qui invite. Mais parle-nous.
C'est un documentaire qui est assez particulier parce que c'est un film de Vincent Verzat, qui est youtubeur depuis 2015, qui a la chaîne Partager c'est sympa, et qui a décidé de faire donc un film sur son expérience de 10 ans de militantisme et de naturalisme. Et l'objectif de son film, c'est de porter conscience, enfin, en tout cas de partager aux jeunes et aux moins jeunes son expérience. Et à travers donc le cinéma, mais aussi parce que le film sortira par la suite sur YouTube. Alors ça peut également poser question sur parce que en fait il y a une tournée au cinéma pendant 5-6 mois qui nous a été proposée. Donc nous en tant que cinéma, on devait se positionner pour pouvoir le diffuser. Et c'était des séances généralement accompagnées avec des associations qui portaient le territoire avec ses valeurs, les valeurs du film. Et donc nous on s'est positionné là-dessus avec un débat avec les acteurs du territoire. Et en tout cas, nous, ça s'est très bien passé hier soir. Et donc, le film, en fait, il parle certaines. Enfin, c'est, on va dire, comme je disais, ça parle surtout de militantisme, d'épuisement sur le militantisme. C'est-à-dire qu'au bout de 10 années, c'est comment on peut encore militer en allant au front, mais aussi à travers d'autres formes de militantisme, parce que forcément c'est des sujets qui n'avancent pas toujours comme on le voudrait.
Oui.
Voilà, et forcément il y a une forme d'épuisement et les acteurs locaux l'ont très bien dit hier soir, c'est que y a des gens pendant 4 ans ils sont à fond, et puis l'épuisement a été tel que au bout de 4 ans ils abandonnent. Donc c'est aussi faire prendre conscience que alors on peut être au front, mais aussi on peut se reculer et dire voilà, on peut agir en allant dans des associations et à notre petite échelle faire ce qu'on a besoin de faire entre guillemets, voilà. Et partager c'est sympa, le film Le Vivant qui se défend, pardon. Et je dirais est à voir, c'est un point de vue. Ça reste.
C'est personnel.
C'est personnel. Moi, c'est ce que je peux reprocher, c'est que ça manque de globalisation. C'est vraiment, on prend ce qu'on a à apprendre, mais ce n'est pas une vérité. Mais comme beaucoup de choses, hein, quelque part, on a envie, on prend ce qu'on a envie de prendre. Et puis, si ça peut en tout cas révéler des consciences, tant mieux.
En tout cas, la démarche est intéressante de proposer à des cinémas de le diffuser en avant-première avec. À chaque fois à des invités et des associations qui le portent.
Mais on va dire que ça, pour moi, ça, c'est pas ce qui va toucher forcément les jeunes, et je pense que c'est plutôt YouTube qui va toucher les jeunes, mais c'est plutôt l'autre partie des spectateurs, donc on va dire à partir de la quarantaine, qui pourront aller voir ce film et qui seront pas forcément touchés par la plateforme. Voilà.
Oui, ce que dit Alexis est tellement en écho avec ce que j'ai vécu hier soir à la librairie du Château, où nous recevions Jean-Marc Guitti pour La Terre confisquée.
Et
Louise Pommeret pour La vie fragile et éventuellement de Sous la dure écorce, qui sont un essai philosophique, l'autre, les deux autres, des romans, enfin des plus poétiques et littéraires. On a fait hier soir les mêmes constats sur la difficulté de la lutte. Et bon, évidemment, personnellement, je pense qu'il faut que la démocratie joue son rôle. Je pense que la première forme de lutte, c'est d'aller voter, je pense.
Voilà. Eh ben, merci. Et voter pour, par exemple, un prix du jury Bouche de l'art.
Quelle transition.
DJ Eh bien oui, on a entendu un très court extrait, parce que c'est en macédonien, de DJ Ahmed, ça c'est le titre original, et en fait le titre français qui est donné, Le garçon qui faisait danser les collines. Pourquoi parle-t-on de ce film aujourd'hui, Cathy ?
Alors on parle de ce film qui va pourtant sortir qu'en juin 2026, donc on est très 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 en amont. C'est un film qui a été présenté dans une sélection de trois autres films au Jury Bouche de l'Art. Donc le Jury Bouche de l'Art, c'est un partenariat que nous avons avec la ville d'Aubenin, le service culturel et le cinéma Le Navire. En amont des rencontres, on propose à des jeunes volontaires entre 15 et 25 ans. Le fameux... Et donc de venir passer un week-end avec nous, visionner des films, en discuter et en élire effectivement un seul pour être accompagné et présenté lors d'une séance spéciale qui aura lieu là précisément le mercredi 19 novembre à 14h au cinéma Le Navire pendant les rencontres des cinémas d'Europe. Et cette année, j'avais volontairement choisi que des films étrangers, que des films européens, pas de français. Ça fait 2 ans qu'ils choisissent un film français.
Il y avait 20 dieux la dernière fois.
Voilà. Oui, je ne sais plus. Alors, me demande pas, parce que je n'ai plus de cerveau. Donc, je ne peux pas te confirmer, mais sûrement. Ils avaient choisi Le Royaume l'an dernier, un premier film. Et là, j'avais plutôt orienté sur des premiers films, des premiers longs métrages, puisque la grande partie des jeunes sont en SPÉ ou en option cinéma au lycée Gimond, donc ils ont quand même une certaine sensibilité et capacité aussi de voir toutes sortes de films et d'œuvres qui leur sont présentées. Mais là, je voulais qu'on puisse parler aussi un petit peu de production, de ce qui se fait à l'étranger, puisque la France, comme vous le savez, est un pays qui produit énormément de films. Ce n'est pas le cas de la Grèce, de la Macédoine, bien entendu, et autres pays européens. Donc là, l'idée, c'était de leur montrer particulièrement 4 premiers longs métrages. Donc ils avaient... Est-ce que je peux parler des autres films avant de revenir à leur choix? Donc ils ont vu un film allemand qui s'appelle Marielle, une jeune fille qui en savait trop, qui sortira en 2026 et qui est distribué par Panam. Donc là, on est sur une tragicomédie un peu subtile sur les rapports parents-enfants et l'équilibre familial, puisque en fait, suite à une gifle reçue, l'adolescente de la famille va voir et entendre tout ce que font ses parents. Et donc, elle va se rendre compte que ses parents lui mentent, se mentent aussi, et qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence sur la vie de famille, le couple notamment. Voilà. Ensuite, il y avait un film qui est déjà sorti en salle qui s'appelle Young Hearts, qui est un film belge, mais plutôt flamand, donc qui n'est pas en langue française directement, qui là revient plutôt sur... qui a eu pas mal de prix, notamment prix jeunesse, et qui revient sur la naissance d'un amour adolescent gay, qui est vraiment accessible pour les collégiens, en fait. C'est très bienveillant par rapport à le coming out, on va dire, du personnage principal. Et puis, il y avait un film grec qui s'appelle Kyuka, avant la fin de l'été, qui est un film qui se passe... Alors, c'est un père de famille qui amène ses jumeaux pour un voyage en bateau, avant que les ados reprennent les cours. Et c'est une virée un peu entre légèreté et amertume par rapport à ceux qui vivent. Voilà. Alors, ils ont choisi Le garçon qui faisait danser les collines, qui est un film qui, je pense, leur a plu parce qu'il a un côté très moderne dans sa forme. Il y a beaucoup de musique, comme tu as dit, le titre original est DJ Ahmed, donc en fond, il y a pas mal de musiques qui sont un peu péchues, un peu sympas pour un large public, j'ai envie de dire. C'est un film qui est drôle, qui montre quand même le poids des traditions sur le personnage principal et une amie à lui, une fille qui va qu'il va rencontrer dans le courant de l'histoire. Ça parle d'émancipation, mais aussi bien féminine que masculine. Et comment on peut se sortir de ces traditions souvent lourdes. Il y a une question de religion, mais qui est abordée aussi, mais sans que ce soit un problème dans le film. Et ça rend un film vraiment très divertissant, plutôt instructif aussi sur comment on vit en Macédoine du Nord, avec des paysages absolument magnifiques. Mmh. Et ils ont fait un très bon choix, parce que ça va parler aux ados, mais ça va parler aussi aux grands, et c'est fédérateur, quoi.
Le garçon qui faisait danser les collines. Alors, si vous n'avez pas la patience d'attendre au mois de juin, eh bien, il faudra être le 19 novembre, je ne sais plus l'heure, mais aux rencontres.
À 14h, mais le film repassera, bien sûr, pendant le festival.
Merci, Cathy. Juste, allez, Shaun le Mouton, on n'a pas le temps de passer la mini bande-annonce,
oui. Ah, oui.
Mais un mot sur Shaun le Mouton, un mot, quelques minutes. Il nous reste 4 minutes pour tout faire.
Oui, donc Shaun le Mouton, La Ferme en Folie.
La Ferme en Folie, voilà,
50 minutes par Jay Grace, avec 4 épisodes, Le Lapin, Alerte au Canard, Un Problème Épineux et Les Lamas du Fermier. Le même plaisir habituel avec les animations Shaun le Mouton, c'est-à-dire les
Wallace et Gromit.
Voilà, donc les objets, les animations extrêmement... C'est passionnant de voir comment les images sont réalisées, extrêmement bien réalisées. Et puis un autre plaisir habituel avec Shaun le Mouton, c'est la reconnaissance des codes des cinémas, des films de genre auxquels il est fait plus ou moins directement allusion, thriller, film de science-fiction, etc., film catastrophe, ou qui sont ces codes évidemment réinterprétés par l'animation de Jay Grace. Donc c'est vraiment bien. Le petit bémol, c'est que on n'a pas retrouvé tellement nous dans ces épisodes le côté quand même un petit peu acide, critique sociale qu'on a souvent. Qu'on avait par exemple avec Shaun le Mouton, critique de la mode, critique du végétariat, enfin des choses comme ça. Là, c'est assez lisse, avec même le dernier, Les Lamas du Fermier. Moi, ça m'a fait un petit peu penser aux manifestations anti-migrants qui se déroulent à Londres en ce moment. C'était pas forcément très agréable, parce que ça simplifie quand même largement la question des migrations, je trouve.
Ok, bon, Shaun le Mouton, La Ferme en Folie, c'est à voir au navire d'Aubena, les week-ends, uniquement les week-ends. Avant de se quitter, un mot sur l'agenda, pour vous dire quand même qu'il y a Cinéma en Vivarais, le festival qui va avoir lieu dans le sud du département, notamment à Joyeuse, Gros-Pierre et Saint-Paul-le-Jeune. Oui, c'est ça. De ce dimanche au 5 octobre, avec pas mal d'avant-premières, notamment Un Simple Accident. Il y aura aussi Titouan, J'ai oublié de te dire, La femme la plus riche du monde, L'inconnu de la Grande Arche, La petite dernière. Enfin bref, allez voir sur le site internet du Festival Cinéma en Vivarais. Autre chose à l'agenda, pas mal de choses faites par la Maison de l'Image et la tournée. On peut retrouver ce soir Indomptable.
C'est un film que je conseille pour son côté dépaysant d'une part, et puis aussi là, les codes du thriller, avec vraiment, vraiment très très bien fait.
Et avant Indomptable, il y a un film aussi pour les ados. C'est une séance qu'on a co-organisée avec le conseil municipal des jeunes de Tueil. C'est à 18h15. C'est le film Oli qui est plutôt chouette, et qui parle entre autres de skate, mais c'est plus profond que ça. Et il y aura un quiz qui sera à l'issue de la projection. Et puis ce week-end, les ciné-goûter animation avec le dimanche matin à Lussas autour du film Sans Dessus Dessous, et l'après-midi à 16h à Tueil avec Tom le Chat. Ce sont des programmes de courts-métrages ou des films pour les enfants à partir de 3 ans. Et il y aura aussi des animations, puisque nous, notre dada, comme dans d'autres salles comme celle d'Alexis, c'est d'accompagner les films et d'être force de proposition autour des films, ce qui est important pour les plus jeunes notamment. Et puis ensuite, mardi 30, on aura
Life of Chuck,
dont on a beaucoup parlé ici et qu'on aime beaucoup.
Oui. Mais il y a un livre, un film aussi.
Et il y a un livre, un film à écouter.
Sur la radio concurrente.
Non, mais on ne peut pas terminer l'émission là-dessus. Alexis.
Si je peux finir, le cinéma pour enfants, tout ce qui est fait, en tout cas, dans toutes les salles, c'est les spectateurs d'aujourd'hui sont ceux de demain. Donc, c'est hyper important de les former aujourd'hui à l'éducation à l'image. Et c'est pour ça aussi qu'on est, en tant que cinéma, présent et engagé dans ces projets-là.
Enfin, exactement, oui, l'éducation à l'image, c'est vraiment le gros sujet actuel de la filière cinématographique.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus parler de cinéma et de films. Et merci Sylvain à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma. D'ici là, bon cinoche. Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà.